Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce numéro de Jeudredi, votre rendez-vous hebdomadaire sur Agone Radio. Ce soir, nous faisons le point sur l'avancée des démarches de l'association des riverains de la place de tir de Vérolier, avec sa présidente Ariane Curdi et Pierre-André Antamaten. Yasmina Cordonnier de la librairie Saint-Augustin nous présente deux nouveaux ouvrages à l'enseigne de Miroir de Page. Nous parlerons de Variations énigmatiques, la nouvelle pièce proposée par le Théâtre Neuf, à l'Ola de la Tuilerie, en compagnie de Jean-Marie Torrenté et Hormoz de Cocatrix Keshavartz. Mathieu Dicolin, enfin, président du FC Saint-Maurice, viendra nous parler de l'actualité et des activités de son club. Nous sommes le jeudredi 27 avril 2023 et nous sommes ensemble pour une heure sur Agone Radio.
Nous nous retrouvons donc avec Ariane Curdi, bonsoir. Et Pierre-André Antamaten, bonsoir. Donc l'association des riverains de la place de tir de Vérolier. Pourquoi cette association?
Alors tout simplement, c'est une demande des riverains. En été 2020, on a assisté à vraiment une forte augmentation des nuisances sur la place de tir de Vérolier. Il y a une pétition qui a circulé en récoltant plus de 450 signatures. Et une année après, on a passé de pétitionnaire à association pour avoir aussi plus de poids dans nos démarches.
Pourquoi ce point de bascule en 2020?
En 2020, on a vraiment assisté à des nuisances qui étaient insupportables, d'où toutes ces plaintes individuelles. Et on a remarqué en fait un retour de l'armée en force sur cette place alors qu'elle avait quitté les lieux. Et aussi, on a constaté une optimisation de la place avec différents aménagements qui ont été refaits sur la place de tir. Donc, le secteur C, peut-être que je fais une petite précision, c'est vraiment la piste de combat qui avait été abandonnée depuis des années.
Donc Pierre-André, qui est un peu le chef technique, hein, qui connaît bien le tir, qu'est-ce qui est vraiment reproché, concrètement?
Bon, c'est des nuisances qui sont absolument hors normes. Donc l'armée a déjà reconnu qu'ils étaient hors normes en ayant fait des mesures sans compter la réflexion de la falaise et la situation, disons, ils n'ont pas du tout compte des vents. Et ils ont refait des études, donc on n'a encore pas les résultats, mais en réalité, ils savent qu'ils sont déjà hors normes sans avoir les derniers résultats.
Donc on reproche en fait des tirs beaucoup trop forts et puis la cadence, le temps.
C'est hors norme. On a fait des relevés. J'ai encore des relevés hier. On est sur 5 relevés en 6 minutes. On est entre les maximums de 95 à 110 décibels à 500 mètres.
Comme le décollage d'un avion.
Oh ben oui, mais c'est court.
De candeur.
Et c'est dangereux pour l'audition.
Peut-être pour que nos éditeurs puissent bien comprendre, on va passer un court extrait qui a été enregistré pendant la journée des parents de l'école de recrue. Donc on voit qu'on est vraiment dans des tirs en rafale. C'est pas interdit?
Alors, ça a été interdit pour le fusil d'assaut 90, ce qu'ils appellent le fusil d'assaut 90, mais là, il paraît que c'était normal parce que c'était une mitrailleuse, donc c'était accepté. Mais c'est peut-être pas ça qui est le plus fort, c'est la répétition jour après jour de ces exercices. C'est devenu incompatible par rapport au développement de Saint-Maurice, c'est tout simplement ça.
Donc, Ariane, il y a cette association qui est créée, ensuite, vous faites quoi? Il y a cette pétition? Vous prenez des contacts?
Oui, on a des contacts. On a un soutien de la commune qui organise des séances, on appelle séances contact, avec plusieurs intervenants. On a des intervenants d'Arma Suisse, que ce soit Arma Suisse Immobilier, qui s'occupe d'études complémentaires de bruit. On a Arma Suisse, l'utilisateur de la place d'armes. On a aussi des intervenants qui viennent du canton avec... Madame Pralon, c'est la section de protection contre le bruit. On a aussi Madame Ecker, du service de sécurité civile et militaire. Donc, on a tout ce groupe qui a été créé. Et puis là, on peut discuter et partager.
Et quand vous discutez, vous ne trouvez pas de solution? Ça va très long.
Alors, on a déjà attendu une année pour que l'étude complémentaire elle démarre vraiment. Ben, c'est vrai qu'on a décidé en été 2020, au printemps 2021 d'une étude complémentaire. Et là, il y a eu quand même une certaine inertie de la part de l'armée. Donc, on était en attente. Et puis maintenant, on est en attente surtout des résultats qu'on attend vraiment avec impatience. Et puis, on se réjouit d'avoir ces résultats puis de pouvoir un peu avoir des données d'analyse, en fait.
Donc, il y a eu une étude pour le moment.
Il y a eu une étude. En fait, on nous a présenté l'étude de bruit. C'était au printemps 2021, mais justement, on était tellement déçus par cette étude parce que c'était pas du tout ce qu'on vivait quotidiennement sur la place de tir. Ça, c'était vraiment pas le miroir de la réalité. Donc, on a demandé qu'ils fassent une étude complémentaire, justement, en prenant en compte les coups de la falaise, les vents, et puis aussi on a pris des mesures aux fenêtres des habitants, ce qui était aussi intéressant de savoir que ce que nous, on vit. Mais on sait que ça reste une étude qui est virtuelle et puis que c'est aussi un lissage sur une année. Donc, on est quand même en décalage parce qu'on aurait vraiment voulu que les mesures se fassent lors des activités quotidiennes sur la place, vraiment des activités qu'on subit, comme on a entendu à l'instant. Et là, ils ne rentrent pas en matière, malheureusement.
On sait pourquoi il y a plus de tirs qu'à l'époque. C'est clair qu'avant, il y avait les écoles de crue, avant les années 2000. Donc, il y a eu une période de calme. Et puis, de nouveau, beaucoup plus de tirs. C'est quoi ? C'est la police militaire. Qui c'est qui vient tirer à Saint-Maurice ?
Alors, c'est vrai que l'armée, elle a quitté progressivement Saint-Maurice. On a même fermé cette place d'armes avant de la rouvrir et puis de revoir un peu tout ce retour de l'armée. On a l'école de police qui tirait puisqu'elle était basée à Savatan, mais dont les contrats ont été mis fin. Et puis maintenant, on a vraiment un retour de tout ce qui est école de police militaire, les écoles de recrues. On a les KSK, on a plusieurs...
KSK, c'est quoi ?
C'est peut-être
Commando Special Craft, voilà. C'est des forces spéciales de l'armée.
Donc, qui ont de toute façon pas des armes conventionnelles.
Absolument, voilà.
Donc, ça fait partie aussi de l'augmentation du bruit.
Ben voilà, oui. Ils venaient là parce que, soi-disant, je veux pas tirer ailleurs. Mais il faut reconnaître qu'on avait une bonne réputation à Saint-Maurice, on pouvait tout faire sur cette place d'armes avant. C'est vrai, hein.
Voilà, alors, principalement l'armée.
Il y a aussi du tourisme, hein. Donc l'armée, bon, en fait l'armée, il y en a plus à Saint-Maurice, hein. Presque plus à Savatan, enfin pas à Savatan, il y avait l'école de police.
Alors c'est clair, c'est différemment, parce qu'au passé, c'est différent que du passé. Au passé, c'était vraiment l'armée. Bon, je vais pas tout refaire l'historique qu'on a avec l'armée, mais c'est vrai qu'on a été bénéficiaires économiquement, ça nous a énormément apporté, mais maintenant ils sont plus là, et puis nous on subit plus que les nuisances, en fait, et ces nuisances, elles sont incompatibles avec notre développement de Saint-Maurice, de la commune.
Pierre-André, qu'est-ce que vous attendez en termes techniques, en termes de cadence de tir, je sais pas, ou peut-être de nombre de bruit dans l'étude complémentaire?
Ben, on nous a promis des angles d'or, faire des rénovations, des améliorations sur les secteurs, disons, tir au pistolet, stand 300 mètres, et puis les secteurs à courte distance qui sont en plein air. On nous a promis ça, mais on nous a jamais parlé du secteur C, puisqu'on nous a toujours occulté. Et c'est ce qui cause des problèmes, déjà en premier. Et de toute façon, les trois autres secteurs ne sont pas dans les normes. C'est déjà reconnu, et en 2025, ça devrait être assaini. C'est vite vu. Alors, on a eu beaucoup de promesses. Deux fois, ils ont parlé à la télévision. On a intervenu deux fois à la télévision, au téléjournal. Chaque fois, le commandant nous a fait des promesses qui ne sont toujours pas réalisées actuellement. Et c'est un des journalistes de la TSR qui m'a encore fait la remarque et m'a envoyé justement un SMS. On dit, mais regarde, il n'y a rien qu'à bouger.
Alors, quand ces gens viennent, alors je peux imaginer qu'il y a des gens qui viennent de Berne ou peut-être d'autres cantons, enfin de Place d'Armes, d'autres cantons, ils ont conscience de la situation ou bien il faut leur expliquer?
Alors vraiment, en général, ils sont pas au courant, ils savent pas du tout ce qui se passe. Et vraiment, c'est ce qu'on peut reprocher. Si le chef de cette place était sur place, ça se passerait déjà différemment.
Avec le bureau juste à côté du stand tir.
Ah ben le bureau, ouais, ça serait bien. Mais bien sûr, il est basé à Morges, ça va pas. Alors ça, c'est autre chose. Mais c'est de toute façon absolument... Moi, je dis, le résultat, il est clair, c'est incompatible. C'est ce qui a créé le sursaut de la population. Et avant, on n'en parlait pas, c'était supporté, mais maintenant, ce n'est encore qu'un début. L'école police militaire 19 qui vient là,
qui est basée à Sion, hein.
Elle est basée à Sion, elle va descendre. Si la police, les écoles de police, qui sont civils, on appelle ça civils, repartent à Moudon. C'est l'école police militaire 19 qui viendra là, et il y a la police militaire. Hier, c'était le feu d'artifice de la police militaire. Et les PM-19, c'est ce que vous avez entendu là, dans les tirs en rafale. Et voilà, ça, c'est les pires. Déjà, à l'époque, sans qu'on sache qui revient, on disait c'est les pires.
Ariane, donc, il y a cette étude complémentaire qui va arriver quand ?
On l'attend avec impatience. D'ailleurs, il y a encore un mail qui a été envoyé hier pour leur demander un délai. Parce que nous, on compte là-dessus pour la suite. Parce que là, depuis 2020... c'est triste à dire, mais il n'y a rien, on est strictement au point de départ. Il n'y a rien qui a été concrètement réalisé sur cette place de tir pour nous soulager. Pourtant, il y a eu des démarches. On a même tenté une convention aussi avec l'utilisateur de la place de tir, mais ça n'a pas fonctionné. Parce que c'est comme si on cautionnait toutes les nuisances qu'il y a maintenant. Et puis, ça a été refusé en bloc par les membres de l'association.
Tant qu'on a parlé de 2025, on attend quoi en 2025 ? Concrètement ?
Alors, ils sont logiquement... Ils doivent rentrer dans les normes. Mais de nouveau, ce sera peut-être leur norme à eux. Nous, on va peut-être continuer à subir ça, puis ça, c'est exclu. Donc là, moi, j'ai vraiment tiré le frein à main au niveau de l'association en disant, OK, on est dans le dialogue, mais j'imagine que on va de toute façon se réunir la semaine prochaine avec le comité, et il faudra aussi penser à des actions peut-être plus concrètes aussi. Parce que là, on ne se fait pas du tout entendre. On a vraiment l'impression de se faire un peu mener en bateau, d'être dans l'attente, et puis il n'y a rien qui est fait.
Bon, on sait très bien, Pierre-André, qu'à l'armée, des fois, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc là, on est de 3 ans, enfin 2 ans et demi après les débuts des discussions. Dans un délai de 5 ans, vous avez de l'espoir ou pas ?
Moi, je n'ai pas d'espoir.
Ce sera
leur
combat.
Moi, je n'ai pas d'espoir. Non, parce que... Non, c'est sûr. Et eux veulent venir tirer, ils veulent. Ils ont bien dit, on viendra. Et puis, de toute façon, je ne vois pas comment ils ne veulent pas tirer avec des silencieux, parce que ce n'est pas possible, soi-disant. Alors que le 90% des coups sont tirés d'une manière statique. Il y a peu de mouvement ou de progression dans le terrain avec les armes. Donc, ça serait la solution. Et même avec des silencieux, vu que si on tire avec des balles supersoniques, l'écho de la falaise est encore trop fort.
Donc, et puis, c'est aussi possibilité, je ne sais pas, peut-être des actions politiques, peut-être, faire remonter l'information au travers de...
Bien sûr. Alors là, on est conscient qu'on a des interlocuteurs, que ça n'avance pas non plus comme on le voudrait et comme on le souhaiterait. Alors forcément qu'on cible certainement plus haut. L'idéal, ce serait de taper, mais vraiment tout en haut, et puis de pouvoir...
On a une conseillère fédérale, Valaisanne.
Exactement, avec Viola Mert, mais on est quand même déjà bien entouré, parce qu'à Berne, on a Benjamin Roduit aussi, qui nous épaule, avec qui on a contact, surtout notre président Xavier Lavanchy. Et ensuite, au niveau du canton, on a des députés aussi de Saint-Maurice, Damien Reva, Laurent Ray, Christelle Farquet, qui mènent aussi à bien et puis qui ont déjà effectué un postulat qui a eu un bel écho aussi au Grand Conseil. Donc c'est vrai qu'on a quand même espoir d'être soutenus, d'être continué à nous soutenir en tout cas.
Et puis bon, on a parlé... oui, Pierre-Alain.
Viola Mert a eu un de mes enregistrements, entre parenthèses. Et puis une petite précision au Grand Conseil, la motion de nos députés a été soutenue. Sauf par un groupe, parce que soi-disant, ils ne voulaient pas que l'armée quitte encore, elle quittait partout, ils ne voulaient pas qu'on quitte Saint-Maurice, mais ils ne savaient pas que l'armée a déjà quitté Saint-Maurice.
Bon, un postulat, ça prend aussi du temps. Le chemin militaire, le chemin politique est souvent autant long que le chemin militaire. comment ça se passe avec les tireurs sportifs ?
Alors, avec la société de tir, on a également des contacts. Nous, quand on a créé la pétition, c'est clair que c'était vraiment pour le secteur de combat, piste de combat, et puis que ça ne concernait pas la société de tir. Forcément qu'avec toutes les démarches, ils sont impactés, mais on les soutient. Ils ont bientôt le tir cantonal. Ils sont venus présenter leur fête lors de l'Assemblée générale. On les soutient. On sait que c'est un événement exceptionnel qui est ponctuel. Ça fait 40 ans qu'il y a eu la dernière fête. Donc forcément, pour ça, on est derrière eux. Même si on n'est pas forcément... On sait que les nuisances aussi que ça génère, hein, mais on est vraiment tolérant. Et puis comme ce mercredi soir aussi, où ils sont censés ne plus tirer, nous, on a vraiment insisté aussi pour qu'on les laisse se retourner, qu'ils puissent quand même faire leurs activités, et puis on les soutient dans cette optique-là, ça c'est sûr. Maintenant, ils savent aussi qu'il y a des normes qui doivent être respectées, pour les tirs civils aussi, et puis forcément qu'on est un petit peu liés.
Donc l'association est capable de faire la part des choses.
Tout à fait, oui.
Vous cherchez toujours des membres ?
Alors, tous les membres sont les bienvenus. Alors, c'est vrai qu'on a ciblé vraiment autour de la place d'armes avec tous les riverains d'Épinassay, des cases, vraiment alentour. Et puis, on se rend compte qu'on a beaucoup d'écho aussi des gens de Saint-Maurice qui disent « Ah, mais on va se promener au Bois Noir, ça mitraille, ça tire, on peut plus se promener tranquille. » Alors là, on ouvre vraiment les membres à toute la population, à toute la commune de Saint-Maurice. Vous êtes vraiment les bienvenus pour nous soutenir dans nos démarches. C'est vraiment un soutien et on a besoin de soutien fort aussi pour les démarches.
Montrer un signal, c'est voilà. Ça l'idée. Pierre-Alain, Ariane, merci d'être venu ce soir nous parler de ce dossier du tir. Et puis, bon, on va le suivre dans les prochaines semaines et les prochaines, j'espère, je ne veux pas dire 10 prochaines années, mais dans les prochaines années.
Merci de votre accueil.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. Naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. Said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed. Bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispers.
Bonsoir Yasmina.
Bonsoir Victor.
Cette semaine, deux livres. Le premier, Montée des eaux.
Oui, Montée des eaux de Pierre Liotagui aux éditions Actes Sud.
On commence par un événement qui se passe en une nuit. Hein.
En une nuit. Donc ce 12 août, en une nuit, l'eau engloutit 80% de la terre. Seules les terres d'altitude sont épargnées et les serres, villages situés dans le sud de la France, se trouvent juste au-dessus des eaux mortes. Les villageois, médusés, dans un silence de mort, se sont réunis sur la place du village. Mais tous savent qu'il faut faire très vite. Ils n'ont pas le temps de pleurer leurs proches qui demeurent dans la plaine.
C'est quel style littéraire ?
Alors, ce roman est écrit sous une forme de journal. À la plume, Noé, le bien nommé, herboriste, détenteur du vieux savoir. C'est d'ailleurs le premier témoin de cette catastrophe. Il sera rejoint par Marie. Marie passait des vacances dans le hameau juste un peu plus bas avec des amis. Elle est la seule rescapée et elle rejoint les serres grâce à un radeau de fortune affrété par Noé et quelques villageois.
Donc on a ce genre de journal, c'est pas très commun. Quels sont les avantages de ce genre littéraire ?
Alors, ce genre romanesque revêt plusieurs avantages. Il permet d'ailleurs, premièrement, de raconter le quotidien avec une touche supplémentaire de réalisme. En plus, plusieurs thèmes peuvent être abordés de manière plus ou moins décousue. On peut y revenir, les modifier, les enrichir. Il est aussi idéal pour y coucher les ressentis. C'est d'ailleurs le travail auquel vont s'atteler Noé et Marie, retranscrire la construction de ce nouveau monde et surtout permettre aux villageois de s'exprimer et, pourquoi pas, laisser une trace pour les générations futures.
On parle de générations futures. Quels sont les défis pour les villageois ?
Les défis sont nombreux, ce qui permet à Pierre Lutagui d'aborder une multitude de thèmes qui d'ailleurs peuvent nous donner un peu le vertige. Parmi eux, c'est la mise en commun des biens, des ressources et des savoirs. Il faut savoir très vite, certains aliments essentiels comme le pain viennent à manquer. Il faut alors réactiver tout un savoir, prélever ce que la nature a à offrir, mais sans l'épuiser, réapprendre à cultiver, à chasser, remettre au goût du jour les techniques de conservation. Mais tout cela prend du temps et les repas sont parfois frugaux. Les soins aussi sont un défi de taille. Noé s'active à la préparation de potions grâce à sa connaissance des plantes. Mais certaines maladies ne pourront pas être traitées. Et une simple appendicite devient presque un problème insoluble. Ils doivent alors trouver des palliatifs, ils doivent innover, reprendre certaines techniques du passé en les améliorant grâce à leur connaissance du 21e siècle. Mais ce qui ronge surtout la population, c'est le deuil impossible à faire. Le deuil de soi, de sa place, de son utilité dans la société, de la famille, des amis. Comme ces jeunes de Lyon et de Marseille, partis en balade durant l'été dans les montagnes, sauvés, mais en même temps piégés aux serres et se rendant compte qu'ils se retrouvent seuls.
Donc, il y a Noé, il y a la montée des eaux, ça fait penser à l'arche de Noé, c'est biblique.
Il y a une dimension biblique dans cette catastrophe. Elle est d'ailleurs traitée à travers l'arrivée à vélo d'un couple qui prêche la punition divine. Cette solution est rejetée par l'ensemble du village et notamment par la doyenne qui était considérée un peu comme une grenouille de bénitier qui a de très très belles paroles. Mais les questions demeurent. Qu'est-ce qui a provoqué une montée aussi soudaine ? Est-ce que les eaux vont se retirer ? Et pour laisser place à quoi ? Alors le tableau semble très sombre, mais Pierre Lutagui nous laisse entrevoir une lumière. Il s'empare des codes de la dystopie. Donc la dystopie, récit d'une société imaginaire, difficile ou impossible à vivre, pleine de défauts dont le modèle ne doit pas être imité. Et c'est justement sur ce dernier point qu'il prend ses distances, en nous dressant le tableau d'une communauté solidaire qui prend en main son destin et surtout qui croit encore à l'avenir.
Donc c'est le contraire d'utopie.
C'est un mélange entre les deux, parce que la cité qu'ils veulent, c'est de l'utopie.
On parle de 368 pages. Ça se lit facilement ? C'est descriptif ?
Alors, ça se lit facilement. Il y a quand même certaines longueurs. Alors, ces longueurs plairont certainement aux amoureux de la nature. Et pour les autres, le journal permet de zapper assez vite certaines pages et puis tout à coup de pouvoir revenir. C'est très facile de s'orienter dans un livre conçu sous forme de journal. C'est une lecture plaisante, mais qui pousse quand même à la réflexion. D'autant plus que certains points évoqués nous font étrangement penser à cette période pas si lointaine, où nous étions confinés.
Et voilà tout. Mais et voilà tout, c'est le titre du deuxième livre. Je vous laisse donner son auteur parce que...
Oui, alors Et voilà tout, de Maren Utgo, traduit du danois par Jean-Baptiste Courceau aux éditions Galmester et qui vient de sortir dans la collection Poche Totem.
J'ai bien fait, je parle pas du tout danois. On se retrouve donc au nord, dans les pays nordiques.
Oui, alors tout au nord de la Norvège, Risten vit près du cercle polaire. Son enfance est bercée par les légendes Sam que lui raconte sa grand-mère. Elle apprend très jeune à ne jamais regarder en face les aurores boréales, au risque de disparaître. Et il faut aussi se méfier des souterriens, ce peuple étrange qui, dès que l'occasion se présente, vous entraîne dans leur antre. Le moyen le plus sûr de leur échapper est de porter un objet en argent. Risten garde d'ailleurs bien précieusement un bracelet et une bague offerts en guise de talisman par sa grand-mère.
Donc dans ce monde à moitié féerique, il y a un problème de famille.
Il y a un problème de famille et ses parents ne s'entendent plus et elle va devoir quitter son hameau pour suivre son père au Danemark. Lorsque celui-ci se remarie, il lui annonce, je cite, qu'il lui offre une nouvelle maman comme cadeau d'anniversaire. Nouvelle maman qui, au passage, n'hésite pas à modifier le prénom de sa fille pour qu'il sonne un peu plus danois. Risten devient Kristen. Elle comprend là alors très vite que tout retour auprès des siens est impossible. Elle va, d'une certaine manière, vivre l'acculturation que son peuple a subie. Ce peuple autochtone, les Sam, se retrouve sur les territoires de la Norvège, la Suède, la Finlande et la Russie. Nomades, ces différents États les ont forcés à se sédentariser. Ils possèdent aussi à l'origine une religion propre, basée notamment sur le chamanisme. Mais la plupart d'entre eux ont été christianisés et convertis au culte luthérien. Alors, il faut faire attention, nous, on les nomme souvent les lapons, mais c'est un terme qui est très péjoratif car il est issu du mot lap qui signifie haillon, lambeau, en référence à leur habit traditionnel cousu de plusieurs tissus.
Mais sa vie va quand même changer parce qu'elle va faire une rencontre.
Sa vie va s'améliorer, pas totalement changer, parce qu'elle va croiser Nils qui, comme elle, se retrouve dans un pays qu'il ne connaît pas. Leur différence les rapproche et les soude et c'est auprès de lui qu'elle peut enfin partager les légendes Sam, ne plus jouer un rôle et se sentir revivre. Mais lorsque ce dernier est forcé de partir, elle décide, pour sauvegarder son identité, ses racines, de rentrer en rébellion. Et ceci avec une bonne dose d'ingéniosité et surtout de malice et une très très grande détermination. Mais ce n'est qu'une fois adulte qu'elle reprendra contact avec sa mère et percera le mystère de son abandon.
Quel est le style littéraire là ? C'est un roman ?
Alors là, c'est un roman. C'est un roman, l'écriture est fluide et l'autrice nous embarque pour un voyage dépaysant, teinté de mystère, d'émotion et de tendresse, sans oublier au passage quelques rebondissements. Tous ces ingrédients savamment dosés nous font passer un excellent moment de lecture.
Donc voilà pour ces deux livres, il y a une dédicace.
Oui, alors il y a une petite info de dernière minute. Le samedi 6 mai, dès 15h, la librairie Saint-Augustin accueille Aurélie Netz pour la sortie de son livre « Femmes en quête de guérison, spiritualité et résilience dans la maladie chronique ». Elle a collecté le reportage, le témoignage de 9 femmes atteintes de maladies chroniques et qui se soignent avec la médecine traditionnelle, mais qui prennent aussi des médecines alternatives. Et en synergie, il y a le vernissage de l'exposition de Tana Netz, qui est sa mère. Elle a illustré l'ouvrage et on a décidé d'exposer ses dessins, qui seront visibles jusqu'au 6 juillet.
Dernière question, Yasmina, est-ce qu'il y a des personnes qui viennent à la librairie voir un livre qu'ils ont entendu sur les ondes d'Agone Radio ?
Oui, tout à fait. Et je sais très bien quel livre suscite plus d'engouement que d'autres, mais oui, il y a
donc
des gens qui
retour,
viennent. J'ai un retour, tout à fait, ouais. Mais des fois, il faut que je me rappelle, parce qu'on me dit, mais le livre dont vous avez parlé, là, qui se passe là, voilà. Mais j'ai un retour.
Merci Yasmina, et à dans 2 semaines.
Avec plaisir, Victor.
Le 4 mai, le Théâtre du Martelet accueille Édouard Baird dans les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce. Une pièce tirée de l'ouvrage écrit par cet acteur à l'humour distingué et sarcastique qui propose une prestation de haut vol remplie d'émotion et de drôlerie. Édouard Baird en scène, c'est le jeudi 4 mai au Théâtre du Martelet à Saint-Maurice. Billets en vente sur martelet.ch et auprès de Saint-Maurice Tourisme.
La fanfare municipale lagonoise vient à votre rencontre à l'occasion de ses concerts des quartiers qui se dérouleront à 19h30 les mercredis 3 mai à la Borette et 10 mai à la chapelle d'Épinasset. Report possible 17 mai en cas de mauvais temps. Apéritif offert par la Société de développement de Saint-Maurice.
Le château de Saint-Maurice vous invite à pénétrer dans l'univers des Schtroumpfs. Laissez-vous emmener par ces joyeux petits lutins bleus au cœur de la grande exposition qui fête leurs 65 ans. Du mardi au dimanche au château de Saint-Maurice pour les 5 à 95 ans. Informations et horaires sur château-stmaurice.ch.
Agone Radio.
18h.
I didn't know what I was doing, what you were feeling, and when did we know? I recall a crowded smoky room, and you and me had had enough of the fumes. Better with you, honey, for the things that we'll never regret. Better with you, honey, as we did the things we'll never forget. Better with you. Better with you. Better with you. Better with you. Didn't show, so then my heart was aching. Where did you go? You seemed lost for sure. But I recall the bar you took me in, and there you were standing with your gin soaked friends. Better with you, baby, for the booze got you out of your head.
Thierry Vrobatel, 17h30, 18h30, en direct sur Agone Radio.
Nous accueillons Jean-Marie Torrenté et Hormoz de Cocatrix pour nous parler théâtre. Variation énigmatique, ça veut dire quoi?
Alors, variation énigmatique, c'est tiré d'une pièce classique de musique. Edward Elgar, donc c'est un auteur anglais qui a écrit une pièce en 14 variations qui dure presque une trentaine de minutes. Et puis Eric Emmanuel Schmitt s'est inspiré un peu de cette, peut-être de cette musique, mais du titre pour écrire sa pièce.
Donc Variation énigmatique, c'est le titre de la pièce.
Exactement.
Écrit par Eric Emmanuel Schmitt, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'auteur, grande histoire.
Alors Eric Emmanuel Schmitt, c'est un auteur français. Qui a énormément écrit de livres et de pièces de théâtre. Mais je pense qu'Hormoz de Cocatrix pourra mieux en parler que moi.
Alors Hormoz.
Alors voilà, donc c'est un auteur français proéminent qui est extrêmement connu. Il a écrit pour le théâtre, il a également écrit des œuvres romancées. Un de ses tout derniers livres qui portait sur Jérusalem a été remarqué par la curie romaine. Et c'est ce qui fait que la curie, donc les services du pape, l'ont invité à Jérusalem. Après quoi, ils lui ont demandé de rencontrer le pape, qui lui a proposé de lui écrire une postface pour son livre. Donc voilà à peu près pour situer l'importance du personnage dans le cercle littéraire français.
Cette pièce, on parle donc d'un écrivain célèbre et prix Nobel de littérature. C'est quoi l'ambiance, enfin l'intrigue de base? On va pas tout dire, hein, parce qu'il faut quand même pour allécher nos auditeurs.
Ouais, c'est une pièce que je qualifierais d'intimiste. C'est un petit peu ce qui m'intéresse dans le théâtre, c'est d'aller chercher l'humanité dans toute sa splendeur. Alors, le journal d'un fou, ben évidemment, ça lit déjà le genre, mais là, c'est un peu l'opposition entre un personnage extrêmement imbu de lui-même.
Donc le fameux Nobel, Abel, comment
Snorko,
on dit
Snorko, qui est écrivain, et puis un journaliste relativement modeste, de peu d'envergure, qui sollicite un entretien auprès de ce prix Nobel, quoi.
Donc cet écrivain vit isolé, imbu de lui-même, dans une cahute, on va dire ça comme ça. Enfin,
c'est peut-être pas une cahute, mais parce qu'il a les moyens, puisqu'il est prix Nobel, donc il a été proéminent, comme disait Ormoz tout à l'heure. Il a beaucoup écrit, donc il a quand même été prix Nobel, donc il a des moyens, quoi. Donc on ne sait pas dans quel est son environnement précis, mais on peut imaginer qu'il est suffisamment bien logé, voilà.
Sur une île norvégienne.
C'est une bonne question.
Non,
norvégienne, c'est juste.
Quoi?
En tout cas, près du cercle polaire.
Exactement.
Voilà. Oui, c'est une île norvégienne. Mais bon.
Mais je ne suis pas sûr qu'elle existe.
Elle n'existe pas.
Ah, c'est imaginaire.
Oui, c'est imaginaire.
Mais ça va avec l'ambiance, c'est solitaire, c'est
voilà,
isolé.
Oui.
Donc il y a ce journaliste qui vient. Il l'accepte?
C'est une bonne question. En fait, il n'a jamais accepté d'entretien. Et puis, il accepte celui-là en particulier. Pour une raison bien précise, c'est parce qu'il habite un village qu'on peut citer, qui s'appelle Norovsnik.
Le journaliste.
Ouais. Il habite là. Alors, et puis, ça l'intéresse.
On peut chercher le village sur Google Maps ou bien c'est imaginaire?
Non, il n'existe pas.
OK. Voilà. Donc, c'est vous, Jean-Marie, qui faites ce...
Je vais jouer l'écrivain, oui.
L'écrivain et puis le journaliste. C'est Claude-Joël Rode.
Claude-Joël Rode.
Donc, c'est une pièce à deux.
Exactement.
C'est deux personnages.
Un dialogue à deux.
Exactement. On ne sort pas de scène, pratiquement pas, de toute l'heure et demie de spectacle.
Ok.
Sans entracte.
Donc il y a ce dialogue entre ces deux. Ce qui va permettre en fait à cet écrivain qui est un petit peu, disons, très imbu de lui-même, austère, de se découvrir. On n'ira pas plus loin après. Hein.
Je vais laisser Ormoz expliquer.
Oui, c'est-à-dire que justement, tout le jeu entre les deux personnages consiste à aller de rebondissement en rebondissement quand, par le jeu des interactions entre les deux, on commence petit à petit à découvrir pourquoi le journaliste est là, quels sont en fait... Pourquoi en fait aussi l'écrivain, un prix Nobel, a accepté spécialement de le recevoir lui et pas les autres, etc. Et à partir de là, il y a une intrigue qui se met en branle. Et on va de rebondissement en rebondissement. Évidemment, on ne va pas dévoiler les rebondissements, mais c'est ça aussi qui fait tout le sel de cette pièce. La qualité littéraire, honnêtement, est exceptionnelle, parce que là, vraiment, c'est la qualité d'écriture d'Éric Emmanuel Schmitt qui est absolument merveilleux. Donc, c'est des beaux passages, c'est un beau texte. Et je pense que les comédiens, ils ont un énorme plaisir à rendre ce texte. Et puis, par ailleurs, on ne s'attend pas du tout à ce qui va se passer. Donc, je pense que les spectateurs vont être extrêmement surpris et puis vont être menés de surprise en surprise parce que le début de la pièce ne laisse absolument pas, prévoir ce qui va se passer par la suite. Voilà.
Il y a une chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a un des deux qui sait tout de l'autre.
Même pas.
Pas tout.
Non, oui, même pas.
Ouais,
c'est vrai.
C'est un élément extrêmement important qui est le fil rouge.
Voilà, exactement.
Qui est effectivement commun.
Qui est commun, mais à part ça, voilà.
Comment on fait pour mettre en scène une pièce à deux?
Comment on fait pour mettre en scène une pièce à deux? Mon Dieu, comment on fait
pour... Non, mais je veux dire, c'est pas toute une troupe avec des décors.
Non. Mais bon, là, ce qui est... Je dirais que la mise en scène... à proprement parler, c'est-à-dire si on entend par là une scénographie, elle est beaucoup moins importante que la direction d'acteur. Parce que c'est une pièce qui repose, comme d'ailleurs quand Jeannie avait joué le journal d'un fou, elle repose entièrement sur l'expression des sentiments et le fait d'intérioriser les personnages et de vivre pleinement les sentiments que les personnages doivent vivre. Donc c'est surtout là-dessus qu'il faut travailler. La mise en scène à proprement parler, moi je dirais que c'est pas l'élément le plus important. C'est simple, c'est pas très compliqué de mettre en scène une pièce avec deux personnages. Par contre, travailler sur les sentiments, sur les variations d'émotions, sur comment les comédiens doivent vivre leur personnage et le rendre sur scène pour que les spectateurs le reçoivent Oui, non, mais c'est vrai, pour que les spectateurs le reçoivent en plein dans le ventre. Et là, je suis sûr, avec Jeannie et Claude Joël, on est entièrement tous les trois d'accord. Il y a des passages, il y a des moments où les spectateurs vont être vraiment pris par l'émotion. Ça sera, à mon avis, ça va arriver.
C'est l'objectif, en tout cas.
Voilà, exactement.
Comment on fait pour s'approprier le personnage ?
Ouh là, je pense que c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Je pense que je vais peut-être m'attirer des foudres, mais dans le théâtre amateur, trop souvent, on est un petit peu trop expéditif. On va trop vite et puis on n'est pas prêt, quoi, finalement. Donc il faut que le texte il soit complètement maîtrisé, intériorisé, vraiment travaillé. Il doit venir tout seul, pratiquement venir tout seul. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à travailler l'interprétation. Si on cherche encore son texte, comment voulez-vous interpréter ? C'est pas possible.
Il y a du par cœur.
Ah, c'est que du par cœur.
Que du par cœur.
Il n'y a pas de l'impro, c'est que du par cœur. Mais après, il faut s'approprier, comme l'a dit Hormoz, le texte, il est vraiment riche, dense, il est beau, il est magnifique. Puis je dis, c'est une lecture de l'humanité qui est fantastique, quoi, entre les oppositions de personnages opposés, quoi. Qui finalement, à la fin, essaye de se retrouver quand même, quoi.
J'imagine que, comme c'est un jeu à deux, il faut beaucoup de complicité.
Oui, et puis avec Claude Joël, on l'a, quoi. Moi, je suis assez kinesthésique, assez de contact, et lui aussi, donc ça se passe très bien, quoi.
Combien de temps pour préparer une telle pièce ?
Alors, en ce qui me concerne, ça fait une année que j'apprends le texte, que je travaille le texte.
À et raison
je
de combien de
tous les jours, une fois. En fait, moi, j'ai une technique qui m'est propre. Je l'ai enregistrée et je l'écoute, et je la répète en même temps. Puis au début, je le lisais en même temps. Je lisais, je parlais, j'écoutais. Puis après, j'écoutais, je répétais. Et puis, depuis peu de temps d'ailleurs, je me suis rendu compte que ça me perturbait. Je travaille le texte sans rien, sans audio, sans rien. Et ça va bien.
Ouais. Donc c'est un travail quotidien.
En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai travaillé tout. Et je pense que mon collègue l'a fait la même chose. Hein, parce qu'il est parti 3 mois plus tard que moi. Parce qu'on avait prévu quelqu'un d'autre au début, puis il s'est désisté. Vu l'ampleur du travail, peut-être. Et Claudio, il a vraiment cravaché, il a vraiment bien, bien travaillé. Ouais.
Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des passages qui sont absolument magnifiques, mais c'est ce qu'on appelle au théâtre des tunnels. C'est-à-dire, c'est des passages qui sont extrêmement denses et longs. Alors évidemment, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le comédien doit d'abord faire vivre ces passages. Il doit les vivre tellement intensément qu'il passe tout seul pour les spectateurs. Sinon, c'est pas tenable. Et puis évidemment, ça suppose que, comme disait Jeannie, le texte, il doit être parfaitement su, il doit couler. Il faut pas qu'il y ait la moindre hésitation sur le texte. Sinon, c'est pas possible. On peut pas vivre ce texte s'il y a une hésitation.
Combien de répétitions ?
Alors, comme j'ai dit, ça fait une année que je suis dessus.
À deux, avec le metteur en scène
Avec le metteur en scène, on a travaillé à table, justement pour l'interprétation. Voilà. Pour l'interprétation, on a fait ça pendant 3 mois, en tout cas.
Oui, oui. Le travail à la table est essentiel.
En tout cas, d'une fois à deux fois par semaine,
oui.
Tout en continuant à travailler chacun, hein, pour soi. Et puis là, ça fait sur scène, je dirais, au local où on est, depuis combien maintenant ? 2 mois.
Alors, plus de 2 mois.
2 mois,
oui, ouais, ça fait ouais, plus de 2 mois.
À raison d'une à deux. Là, ces temps passés, on a fait jusqu'à deux fois par semaine.
J'ai
même
maintenant
été chez lui, ouais. Parce qu'il a une situation de famille un petit peu difficile, donc j'ai même été chez lui pour répéter le texte.
Ouais. C'est une scène statique où il y a des mouvements, ou c'est toujours sur un canapé
Non, il y a du mouvement. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de mouvements. Mais simplement, ce n'est pas une action comme dans une comédie de boulevard où voilà, il y a les portes.
Il n'y a pas de porte qui claque,
il n'y a pas d'armoire qui s'ouvre sur l'amant. Ce n'est pas ça du tout. Mais il y a du mouvement. Et là, maintenant, on a répété en général à peu près 2 fois par semaine quand on était, disons, in situ. Mais maintenant, on est à 3, 4 fois par semaine. Mm-hmm. Puisqu'on s'approche des représentations.
Donc les personnes qui vont venir voir ce spectacle, ils vont repartir avec des questions.
Ils vont avoir envie de revenir pour qu'on tout comprendre.
c'est l'objectif, parce qu'en fait, avec Jean Lefou, j'ai eu plusieurs fois cette remarque. J'ai des gens qui sont venus 2 fois, voire 3 fois, pour chaque fois en prendre encore plus. Alors c'est un peu l'objectif, j'espère que c'est ce qui va se passer. Quoi.
Pièce déjà jouée, hein, qui a une 20aine d'années, je crois.
Oui, absolument. Et qui a eu beaucoup de succès parce qu'elle a été créée à Paris avec Alain Delon dans le rôle de Snorko et Francis Huster dans le rôle du journaliste.
Donc pièce connue.
Oui, très connue.
Bientôt les planches à Paris.
J'aimerais bien pouvoir retourner à Paris. Je ne sais pas si les deux communes se mettront d'accord pour nous accepter. On verra après le résultat. De...
Saint-Maurice-Val-de-Marne, c'est Paris, on peut dire ça comme ça.
Voilà. En tout cas, j'ai le plaisir de dire que je vais à Paris, oui. J'espère y retourner.
C'est à l'Ola de la Tuilerie.
Oui.
Combien de représentations?
Alors, on en a prévu 5. Donc, on commence le samedi 6 et le samedi 7 mai. Et on poursuit avec le...
Ça fait quoi? Vendredi, ça fait dimanche. Vendredi 12.
12, 13, 14. Voilà. Okay. Vendredi, samedi, dimanche, la semaine suivante.
Samedi, donc les samedis, c'est le 6 et le 13 mai.
Voilà.
20h30. Les vendredis 12 mai. Je lis le papillon.
Hein, oui, il n'y a pas de souci.
Et les dimanches, 7 et 14.
Voilà.
Donc, samedi et vendredi à 20h30. Voilà. Le dimanche à 17h.
Voilà.
Donc, pour une pièce, à peu près une heure et demie.
Voilà.
Sans pause.
Voilà, sans pause, ouais.
Puis on va jouer ailleurs.
Et puis ça sera l'office du tourisme qui va s'occuper des réservations, ou bien alors aussi sur le site du Théâtre Neuf, la FSSTA. Et puis on projette de la reprendre cet automne. Je suis en contact avec Chalet, qui a une magnifique salle. Donc normalement on va jouer fin septembre, début octobre à Chalet, à Monté, au Petit Théâtre de la Vièze. Et puis j'ai l'Odéon aussi qui nous reçoit.
Parfait, le rendez-vous est pris. Merci d'être venu sur Agone Radio et plein succès pour cette pièce.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Agone Radio.
Chauffer les amplis pour donner un peu d'air. C'est clair, la route est longue à ce qu'on dit. Pour plaire au monde et à n'importe qui, on sort les flashs pour n'importe quelle tâche. La colère monte et les mecs se lâchent. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Faut pas que je force, que la vie soit facile. Je veux faire de l'or sans bouger mon nombril. Me donner un peu d'air, c'est clair, c'est clair. Pour plaire aux cailles, éviter les ennuis. J'ai passé l'âge, laissé des ardoises. Il faut que je me pose quand tout le monde se lâche. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Le soleil plombe et les girls sont faciles. Dans la pénombre, préférer les dociles. Je veux toujours moins en faire. C'est clair, c'est clair. Allonge du cash pour se manquer. Autant que je sache, c'est une bonne thérapie. On sort les flashs pour n'importe quelle tâche. La colère monte et les mecs se lâche. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport.
Et oui, il y a du sport avec le FC Saint-Maurice et nous avons le plaisir d'accueillir Mathieu Nicolin. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Pour parler sport, FC Saint-Maurice, comme je l'ai dit avant, une partie sportive et une partie plutôt l'association, le club. Première question, l'année passée vous étiez en deuxième ligue inter, relégué, remonter ça ne va pas être possible ou difficile, toujours possible?
Non, là, effectivement, on est largué par rapport à la première place du classement pour la promotion en deuxième ligue inter. Ça paraît compliqué.
L'objectif était de remonter ou bien d'être stabilisé ?
Non, c'était avant tout de bien gérer une relégation, parce que c'est pas évident. On a eu plusieurs exemples de clubs qui ont fait la dégringolade derrière pour des ligues encore plus basses. Donc avant tout de bien digérer la relégation, puis de rebondir ensuite.
Bon, on parle quand même de deuxième ligue inter. Hein. Pour nos auditeurs qui comprennent pas, enfin qui connaissent pas forcément le foot, on est quand même dans une ligue suisse-romande.
Ouais, effectivement, on allait jouer à Genève, Fribourg, Neuchâtel et le canton de Vaud. Alors que la deuxième ligue est cantonnée en Valais.
C'était la relégation, ça a été facile à digérer ?
Oui, ça s'est bien passé. On a pu garder quasiment tous les joueurs. Tous les joueurs sont restés au club malgré la relégation. Et puis on s'est remis au travail tout de suite pour rebondir, justement.
Donc il y a cette deuxième ligue inter qui est plutôt suisse-romande, enfin régionale. Et puis il y a cette deuxième ligue qui est purement valaisanne. C'est quoi les différences ?
Alors au niveau footballistique, c'est clair qu'elle est assez intéressante, cette deuxième ligue inter. On a joué contre des très bonnes équipes. Tout va un petit peu plus vite, tout est plus juste techniquement, tactiquement aussi. Et puis après, le côté négatif, c'est peut-être la fréquentation du public. Ou en deuxième ligue valaisanne, c'est beaucoup plus intéressant. On a des derbies contre Verneuillac, contre Colombais notamment. Donc ça permet d'attirer plus de monde au stade.
Donc quand on va à Genève, par exemple, il y a beaucoup de joueurs en fait, qui pourraient viser en fait, les ligues supérieures.
Oui, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui jouent dans cette deuxième ligue inter, dans les autres cantons. Ils ont l'ambition, je pense, de jouer plus haut et de viser la première ligue promotion, voire plus haut.
Financièrement, ça change, deuxième ligue inter ou deuxième ligue ?
Oui, effectivement, il y a quand même une augmentation du budget due principalement aux frais de déplacement, aux frais d'arbitrage. Un staff aussi un petit peu plus conséquent pour gérer l'équipe, gérer les déplacements.
En termes de spectateurs et d'engouement, ça change rien ?
Alors
je fais déjà la réponse.
Oui, enfin. Voilà. Ouais. On a moins de monde, donc on a quand même moins d'entrées financières par rapport au public qui vient voir le stade. Peut-être quand on a été dans le championnat avec les Fribourgeois et les Vaudois, là c'était un petit peu plus intéressant, ils se déplaçaient plus volontiers. C'est plus des clubs qui nous ressemblent au club valaisan.
Au FC Saint-Maurice, il y a des gens qui font tous les déplacements. Est-ce qu'il y a un groupe d'ultra, comme on pourrait dire ?
Alors, il y a quelques fidèles qui suivent tous les matchs du FC Saint-Maurice à la maison comme à l'extérieur. Et je les en remercie d'ailleurs.
Coupe de Suisse. Donc, on sait quand on est en deuxième ligue inter, il y a eu cette promotion. Ça fait quelques années. Il y a la possibilité d'avoir la Coupe de Suisse. Il n'y a jamais eu de FC Servette, FC Sion, un Zurich ou un Bâle ou Young Boys. Hein.
Non. Malheureusement, on n'a pas pu accueillir une grande équipe. Le chemin est assez long pour se qualifier pour la Coupe de Suisse. Il y a les éliminatoires qualifications pour la Coupe Suisse. Et il y a quand même 4-5 matchs à gagner avant d'espérer tirer un gros morceau et être qualifié pour la Coupe Suisse.
Donc, avant de rentrer dans le dernier tour au 32e de finale, hein, quelque chose comme ça.
Oui, effectivement. 32e ou 64e.
Il y a la 2.
Oui, effectivement, la 2, qui a fait la culbute l'année passée aussi.
Donc les deux équipes ont culbuté.
Oui, voilà. Mauvais championnat au niveau sportif pour nos équipes actives l'année dernière.
Vous n'avez pas pu prendre des joueurs de la 1 pour aller sauver la 2.
C'était déjà assez compliqué avec la 1. On a lutté jusqu'au bout. Il y avait des chances de se maintenir jusqu'au bout. Donc on n'a pas pu aider la 2 à se sauver, malheureusement. La 2 qui fait un très bon championnat. On a une jeune équipe avec beaucoup de juniors du CRU, des anciens juniors qui ont été mis avec cette deuxième équipe et qui est première actuellement de 5e ligue.
Donc objectif promotion ?
Oui, l'objectif promotion, 4e ligue, qui est une ligue déjà plus intéressante là, que la 5e ligue.
On sait que l'année passée, donc il y a Saint-Maurice, il y a Sierre et Savièse hein, qui ont été relégués.
Oui, c'est juste.
Ce qui a fait la cascade, ça veut dire 6 équipes qui ont été reléguées en 3e ligue, etc. Saint-Maurice 2 n'a pas culbuté à cause de la 1 de Saint-Maurice.
Non, effectivement, c'est pas à cause de ça.
Après, il y a le mouvement junior, junior A, junior B, junior C, D et E.
Oui, effectivement. Alors, il nous manque les juniors A au FC Saint-Maurice. On aimerait bien refaire une équipe de juniors.
Ils sont tous à la 2, alors ?
Alors, l'équipe, là, oui, ils sont tous à la 2, effectivement. Il manquait quelques joueurs pour maintenir cette équipe en junior A. C'est une volonté du comité de refaire une équipe le plus rapidement possible. Il faut un contingent d'au moins 20 joueurs pour avoir quelque chose de... qui tiennent la route. Mais à côté de ça, on a un grand mouvement junior qui a bien grandi ces dernières années. Pour vous donner un chiffre, là, on a plus près de 50% d'augmentation sur les 4 dernières années au niveau du mouvement junior.
Il y a l'école de football ?
Oui, une belle école de football avec aujourd'hui une trentaine de jeunes qui participent aux entraînements de l'école de foot. Voilà, c'est important d'avoir la base de la pyramide qui est solide.
Si je suis parent d'un petit qui est intéressé à commencer le foot, à suivre Cristiano Ronaldo, j'en sais rien, à partir de quelle année ? Quel âge ?
À partir de 6 ans, on accepte les jeunes à l'école de foot. Ils s'entraînent une fois par semaine le mercredi.
Il y a des matchs ?
Il y a des petits tournois joués sous forme donc, de tournois avec plusieurs clubs qui se déroulent les samedis matins. Donc un ou deux par tour, 4 par saison à peu près. C'est assez ludique, puis les jeunes peuvent bien se défouler puis bien jouer au foot.
Et puis après c'est monté équipe
Oui, après on y va avec les juniorés. Là il y a eu un changement assez important avec les juniorés. Où l'association suisse de football a voulu un changement assez important, plus le traditionnel match 7 contre 7 comme on avait jusqu'ici.
Sur petit terrain.
Sur petit terrain, oui, une moitié de terrain. Donc là, on est passé à une formule de 3 contre 3, deux matchs de 3 contre 3, et puis ensuite un match de 6 contre 6.
3 contre 3, mais sans gardien.
Sans gardien avec des tout petits buts, oui.
Tout petits buts, ok. Ouais. Des événements aussi au FC Saint-Maurice, il n'y a pas que l'aspect sportif, il y a aussi l'aspect extra-sportif.
Oui, effectivement.
Business lunch.
Oui, on aime bien être actif, être proche de la population agonoise et régionale. Business lunch, effectivement, un événement qu'on a relancé un petit peu l'année dernière avec une belle réussite. On avait plus de 55 entreprises représentées, ça représentait environ 110 personnes. Donc l'objectif, c'est d'avoir un rendez-vous économique ici à Saint-Maurice, de pouvoir regrouper un petit peu tout le monde ensemble pour réseauter, passer un bon moment. Et puis là, on est sur l'organisation du 6e Business Lunch. On avait prévu de le faire au mois de mai de cette année. Puis finalement, on a décidé d'organiser un événement de qualité. On fera ça en mai 2024. On se laisse le temps.
Tournoi en salle ?
Oui, un tournoi en salle qu'on fait depuis plus de 20 ans. Pour les juniorés, les juniors D et puis les vétérans. Donc c'est assez intéressant, assez prisé parce qu'on a des équipes du Valais, du canton de Vaud, Fribourg et Genève qui viennent chaque année à notre tournoi.
Aussi le souper de soutien, et il est au mois de février mais on en parle donc pour celui de 2024.
Oui, alors on a fait un petit changement là au mois de février. On a fait cette date-là début février au lieu du mois de novembre qu'on fait habituellement. La date était occupée au mois de novembre, donc on a fait ça le début février et puis on a une très belle réussite. Fête de la bière avec 240 personnes, le record pour le FC Saint-Maurice au niveau du souper de soupe.
Pas très sportif la fête de la bière, avec choucroute comme les FC Sion.
Ça paraît que c'est bon pour récupérer la bière.
Club des 100 aussi je crois.
Oui, alors ça, le Club des Amis, effectivement, Club des Amis qui se réunit deux fois par année pour un repas le samedi midi. Le prochain, ce sera le 6 mai. On a un peu plus de 80 personnes dans ce Club des Amis. On partage un repas le samedi midi à la buvette. Il y a des matchs de juniors l'après-midi, puis le match de la première équipe le soir.
Quand on est président d'un tel club, avec tout ce qui va autour, hein, la première équipe, des enjeux sportifs et toute l'organisation, c'est facile, ça prend combien de temps ?
Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps en dehors du boulot. Je n'ai pas chiffré le nombre d'heures. Il y a des moments plus faciles que d'autres. Et puis, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de jolis moments qu'on partage avec le comité, les parents de juniors, les joueurs et puis tous les supporters aussi.
Dernière question. On peut facilement venir au match, même si on n'est pas forcément intéressé par le foot. Toutes les informations sur le site internet, c'est juste.
Oui, avec plaisir. Il ne faut pas hésiter à venir. On a au stade du C, notre stade principal. On a une jolie buvette et puis il faut venir voir les matchs de nos juniors, de nos actifs. On demande que ça.
Merci beaucoup Mathieu d'être venu nous parler du FC Saint-Maurice.
Avec grand plaisir.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Jeudi Redi, Victor Glacet, Thierry Vrobatel, 17h30, 18h30, en direct sur Agone Radio.
Un grand merci de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Jeudi Redi. Merci à nos invités du jour, Ariane Curdi et Pierre-André Antamaten, Yasmina Cordonnier, Jean-Marie Torrenté, Hormoz de Cocatrix Keshavart et Mathieu Nicolas. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau numéro de Jeudi Redi où nous parlerons notamment d'astronomie, de chant choral et d'édition musicale. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, écoutez-nous sur Internet et sur le DAB+. Vos réactions, vos avis par WhatsApp au 079 150 1890. Bonne suite de Jeudi Redi soir et à la semaine prochaine.